Hélène Philippe pour le journal, bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Il était ce jeune marin blond Maxence dans le conte intemporel de Jacques Demille et Demoiselles de Rochefort.
C'est une histoire d'amour, je suppose.
Personne n'en a jamais rien su, pas même mes filles.
Vos filles, depuis le temps que vous m'en parlez, j'aimerais bien les connaître.
Jacques Perrin est mort aujourd'hui à 80 ans, on l'a appris il y a quelques minutes. Hommage dans un instant à une foisonnante carrière de comédien, de producteur, de documentariste. Ils refont le match sur le terrain au lendemain du duel. Marine Le Pen fustige l'arrogance, la condescendance d'Emmanuel Macron à Arras où elle est en meeting en ce moment même. Et le président sortant, ce sera aux électeurs de dire qui a gagné le match dimanche. L'actualité, c'est encore la Russie qui revendique le contrôle quasi total de Mariupol, l'expertise psychiatrique de Salah Abdeslam au procès des attentats du 13 novembre, et puis la prouesse du robot Ingenuity qui vole autour de Mars depuis un an, bien au-delà des espérances des scientifiques. Et au téléphone, Sainte-Fabienne.
Eh bien, ce soir, la question qu'on a envie de vous poser, c'est bon, alors maintenant, vous en êtes où, vous, les déçus, les indécis, les assommés du premier tour? Il s'est passé presque 15 jours, vous avez vu évoluer les candidats, vous les avez vus débattre. Alors, comment le choix a-t-il mûri dans vos têtes, par quelles affres êtes-vous passé? Ça revient à poser aussi une question essentielle: à quoi sert mon vote? À vos questions, à nos invités, au 01 45 24 7000.
France Inter.
Quelques jours après Michel Bouquet, le 7e art perd donc un autre de ses grands noms, Jacques Perrin, homme de cinéma engagé, producteur, documentariste. Il s'est éteint aujourd'hui à 80 ans. Bonsoir Amélie Perrier.
Bonsoir Hélène.
Et il monte sur les planches dès les années 50.
Oui, c'est au théâtre qu'il débute, fils d'un régisseur de la Comédie française, souffleur au TNP de Jean Vilar. Puis le cinéma dans les années 60. Il enchaîne des rôles chez Henri-Georges Clouzot, Costa Gavras, Pierre Schoendorfer pour 4 films dont Le Crabe Tambour en 77. Mais vous vous souvenez à coup sûr de son rôle de Maxence dans Les Demoiselles de Rochefort. Il est l'amoureux transi de Catherine Deneuve.
J'ai une chambre en ville. Mon atelier, quoi. Tous les soirs, je fais le mur, je rentre chez moi et je peins. La semaine prochaine, je monte à Paris. Et dans 6 mois, j'expose.
Mais en fait, quand Jacques Demy vient le chercher pour sa comédie musicale, il ne sait ni chanter ni danser. Alors, il va tenter de coller sa voix à un playback.
Soyez pas triste, monsieur Maxence. Des filles, après tout, il y en a plein les magasins.
Je l'ai cherché partout. J'ai fait le tour du monde.
Et Demy qu'il prendra aussi pour être le prince dans Podane.
Mais l'homme ne veut pas simplement jouer la comédie. Dès 1968, il fonde sa société de production et va se lancer dans la réalisation de documentaires.
La production d'abord, avec notamment les films engagés de Costa Gavras, dont Z en 1968. Et effectivement, on le connaît pour ses merveilles de documentaires animaliers. Ensuite, en 95, il produit Microcosmos, le peuple de l'herbe, où les insectes sont filmés comme des personnages fascinants et poétiques, et qui lui vaudra le César du meilleur producteur. En 2001, il s'envole à la production et à la réalisation aussi, cette fois, du Peuple migrateur. Puis viendront Océan ou encore Les Saisons. Jacques Perrin était un homme de cinéma qui aimait filmer la beauté de la nature, engagé pour la sauvegarde de la planète. Il soutiendra par exemple Raoni, le chef amazonien, dans sa lutte contre le barrage de Belo Monte au Brésil.
Jacques Perrin, marin rêveur dans Les Demoiselles de Rochefort, prince charmant dans Podane, producteur de Microcosmos, où vous le disiez, du Peuple migrateur. Merci beaucoup Amélie Perrier, il s'est éteint aujourd'hui à 80 ans.
Et à 19h04, Hélène, il n'y a plus de temps à perdre, il reste moins de 30 heures de campagne officielle.
Le match est-il plié? Les sondages donnent toujours l'avance à Emmanuel Macron au lendemain d'un débat où Marine Le Pen l'a pourtant trouvé arrogant, méprisant, la candidate RN. En meeting ce soir au parc des expositions d'Arras dans le Pas-de-Calais, où vous vous trouvez? Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Dernier meeting, dernier appel à la mobilisation.
Oui Hélène, dernier appel à la mobilisation de la candidate du RN qui il y a quelques minutes maintenant a fendu la foule et les drapeaux tricolores pour rejoindre la scène, faisant durer le plaisir plusieurs longues minutes à saluer ses militants. Marine Le Pen qui vient de commencer ce dernier discours de campagne, vous l'entendez derrière moi, vraiment à l'offensive contre Emmanuel Macron, revenant dès les premiers mots sur le débat d'hier soir. Un président ne devrait pas se tenir comme cela, lancé la candidate, dénonçant la nonchalance, la condescendance de son adversaire et provoquant évidemment les sifflements du public. Public que je suis allée voir juste avant le début du meeting et qui se partage entre ceux qui, malgré les sondages, y croient encore. Ceux qui regrettent que Marine Le Pen n'ait hier pas tapé Emmanuel Macron plus fort. Et puis ceux qui se résignent déjà, un peu comme cette retraitée qu'il admet lucide. 45%, ce serait déjà très bien.
Élodie Forêt avec Julien Girard en direct d'Arras où se trouve Marine Le Pen. Tandis qu'Emmanuel Macron était lui aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, qui a placé Jean-Luc Mélenchon en tête dimanche dernier. Simon Le Baron, bonsoir.
Bonsoir.
Surtout une occasion pour le président sortant de convaincre les quartiers populaires, territoires totalement délaissés par la candidate RN.
Oui, des quartiers et des habitants qui pourtant ne l'accueillent pas tous à bras ouverts. Les Macron présidents se mêlent aux chants de protestation. Celle-ci lui reproche son excès de confiance.
Non, mais c'est votre attitude. Enfin, c'est juste une question. Parce que on n'a pas l'impression que vous mettiez à notre niveau. Et je crois que c'est une question d'attitude. Et je pense que votre attitude de fanfaron, en fait, ne plaît pas.
Mais non.
Alors, fanfaron, Emmanuel Macron.
Si je l'étais, si j'aimais pas les gens, croyez-vous que j'irais au contact chaque jour?
Il faut arrêter ça.
S'il est venu ici aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour une déclaration d'amour.
L'ensemble des habitants de nos quartiers populaires sont une chance pour notre République. On a beaucoup, ces derniers mois, stigmatisé ces habitants.
Et le maire socialiste Mathieu Hanotin, à ses côtés, enfonce le clou.
Si Marine Le Pen, par une catastrophe, devait gagner, les premières victimes, elles seraient ici, sur ce territoire, dans ces quartiers que représente Saint-Denis.
À 3 jours du second tour, Emmanuel Macron promet même un plan quartier 2030, lui qui avait enterré le plan Borloo pour les banlieues. Un dernier bain de foule, au pas de course. Un passage en coup de vent sur un stade pour quelques directs du droit et du gauche, évidemment, avec un boxeur local.
J'y vais, moi.
Allez, monsieur le président, frappez. Montrez-moi ce que vous avez dans le
dos. Non, mais j'ai pas de...
Il se dit super combatif, déterminé. Le président sortant jure que pour lui, rien n'est encore joué.
Simon Le Baron en direct avec Geoffrey Marianne.
Et le débat d'hier, change-t-il les choses? Fait-il bouger les lignes?
Pas sûr, parce que déjà, de moins en moins de Français le regardent. 15 600 000 personnes tout de même hier. C'est beaucoup, mais moins qu'il y a 5 ans. Et encore avant, c'est la pire audience pour ce rituel de la 5e République qui n'a quasiment pas bougé. On le dit depuis hier, un débat avec ses codes où l'on attend des journalistes un rôle de modérateur. Et s'il fallait un signe qu'il est urgent de dépoussiérer l'exercice, c'est peut-être le petit succès de la diffusion du débat sur les plateformes numériques comme Twitch. Bonsoir Xavier Demani.
Bonsoir Hélène.
2,5 millions de personnes se sont connectées hier soir à un moment du débat et au plus fort, il a quand même été suivi par 300 000 personnes en même temps. Ça veut dire qu'il y a une attente.
Oui, clairement. D'un côté, plusieurs streamers, on dit comme ça, se sont appropriés ce moment d'histoire politique en choisissant de le diffuser. Ils étaient 4 au total à avoir payé même les frais techniques auprès de TF1 et France 2. De l'autre, vous l'avez souligné, beaucoup de spectateurs. Alors, c'est évidemment peu comparé aux millions de Français derrière leur télé, mais ça traduit en effet un certain intérêt, d'autant plus sur une plateforme très fréquentée par les plus jeunes. Ce sont les échanges entre ces spectateurs, ça c'est l'ADN de Twitch, qui ont rendu l'écoute moins longue et moins rude, estime le journaliste de France Télévisions Samuel Etienne, qui a retransmis le débat sur sa chaîne personnelle.
L'essentiel des gens n'aurait sans doute pas regardé le débat sur un média classique à la télé, sûrement pas sur cette longueur-là. Qu'est-ce qui crée l'intérêt? C'est l'échange, c'est l'interactivité entre viewers eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont le chat, ils commentent, du coup ça rend l'exercice vachement plus intéressant.
Une très bonne audience donc pour de la politique sur une plateforme où on évite plutôt d'en parler d'ordinaire. À noter que si tous les streamers ont enregistré de très bonnes audiences hier soir, c'est justement le moins politique des 4 qui a réuni le plus de spectateurs, Sardoche, un joueur de jeux vidéo. Mais un débat toutefois dense et difficile à enrichir de façon pertinente ou impartiale pour rompre avec ce vieil exercice, certains, justement, ont notamment suggéré la possibilité d'organiser plusieurs débats de l'entre-deux-tours à l'avenir, façon américaine, autour de différents sujets.
Xavier Demani, l'échange le plus musclé, sans doute, hier, sur l'interdiction du port du voile dans l'espace public. Vous allez créer la guerre civile, a dit Emmanuel Macron, la candidate RN qui s'est voulue, elle, la porte-voix du peuple, à qui elle a d'ailleurs adressé ses derniers mots, tandis que le président sortant a conclu en promettant de mettre la protection de l'enfance au cœur des 5 prochaines prochaines années s'il est réélu. Bonsoir Anne Orenstein.
Bonsoir Hélène.
Qu'est-ce que cela veut dire précisément?
Si vous voulez bien, on va reprendre la définition exacte de l'expression protection de l'enfance. C'est la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation. C'est large. C'est tellement large que dans l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, on a eu beaucoup de mal à savoir exactement ce que cela recouvrait. Au final, il s'agirait donc des actions contre le cyberharcèlement, des mesures pour les mères célibataires, droit opposable à la garde d'enfants, revalorisation de 50% de la pension de soutien familial ou encore la suite des 1000 premiers jours. Mais si c'est aussi large, c'est peut-être aussi parce que le candidat a plus que cela en tête. En effet, à plusieurs reprises, devant des élus locaux ou des représentants d'associations, Emmanuel Macron a appelé de ses voeux, je cite, « un chef de file unique, responsable de cette politique du jeune enfant ». Pour le sénateur des Hauts-de-Seine, Xavier Iacovelli, ça pourrait se concrétiser par un ministère de l'enfance, avec un rôle beaucoup plus transversal.
Anne Orenstein, et en ce 21 avril, 20 ans jour pour jour, après la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, cette mobilisation aujourd'hui à Toulouse, à l'initiative de la présidente de région, Carole Delga, et du Parti Socialiste. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Pour faire barrage à l'extrême droite et réactiver le Front Républicain.
Oui, convaincre les abstentionnistes, voilà le mot d'ordre de la mobilisation pour le chanteur Sanseverino qui s'apprête à monter sur scène. Il faut à tout prix éviter l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir.
Déjà, on en est à un point où la République est pas mal abîmée. Là, ce serait vraiment une fêlure dont on aura du mal à se remettre, je pense. Cette espèce de haine latente et raciale, et juste la haine de son voisin qui est différent de nous, si un président qui représente ça, une présidente, pardon, qu'il y en a qui se sentiront légitimes, c'est pas un concert qui fait changer les votes, on est d'accord. Mais on a besoin de se rassembler.
Se rassembler avec des musiciens comme Majid Cherfi, Cut Killer, mais aussi des professeurs de droit, des sociologues comme Edgar Morin, des députés européens. Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, a aussi prévu des témoignages vidéo, notamment de sportifs comme Brahim Asloum, d'acteurs du monde associatif, pour faire bloc et rappeler qu'il y a 20 ans, la France manifestait contre l'arrivée au deuxième tour de Jean-Marie Le Pen.
Force est de le constater qu'il n'y a pas eu du tout la même réaction citoyenne, au niveau même des partis, au niveau des associations, au niveau des syndicats. Mais moi, en Occitanie, je ne baisse pas les bras et j'ai voulu qu'il y ait une fête de la République, qu'on rappelle notre attachement à la République et dire tous que nous allons utiliser le bulletin de vote Macron.
Le bulletin Macron, avant de s'intéresser à un autre bulletin, celui des législatives, on commencera à en parler, précise Carole Delga, dès la semaine prochaine.
Antoine Gignot en direct de Toulouse avec Martin Troadec.
Les Ukrainiens ont-ils totalement perdu le contrôle de Mariupol?
Il n'y a encore aucune preuve que la ville soit complètement perdue, juge le président américain, alors même que Vladimir Poutine revendique la prise de ce port stratégique. Après 2 mois de siège, de pilonnage, la ville est un champ de ruines, mais il reste encore quelques 2000 combattants ukrainiens réfugiés dans la gigantesque aciérie Azov. Dans le collimateur de Moscou aussi se trouve la ville d'Avdivka, à une dizaine de kilomètres de Donetsk, bastion séparatiste. 30 000 habitants avant la guerre, ville quasi fantôme aujourd'hui, où se trouvent deux de nos envoyés spéciaux, Gilles Gallinaro et Omar Waman.
En arrivant dans la ville d'Avdivka, on découvre un véritable paysage de désolation. Les rues sont jonchées de débris, des commerces éventrés, les immeubles criblés d'impact. Le silence précaire est déchiré par le tir d'une salve de roquettes. Oleg sort sur le pas de son épicerie et nous invite à nous mettre à l'abri. Il gère cette boutique avec son épouse, Lina.
Ici, vous êtes en sécurité.
On est des survivants. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je ne peux que sourire. On n'a pas le choix.
On essaye de faire face. Mais nerveusement, nous sommes à bout.
Les rares civils encore présents dans la ville rasent les murs et marchent d'un pas pressé. Yula a décidé de rester malgré le danger omniprésent.
Ça bombarde tout le temps. On ne sait même pas qui tire sur qui. Et comme l'abri souterrain est trop loin, on n'a pas le temps de s'y rendre quand ça commence à taper. C'est catastrophique. C'est comme ça depuis 8 ans. Chaque année, c'est de pire en pire.
Comme toutes les villes qui se trouvent le long de cette ligne de front, Avdivka résiste pour l'instant au coup de boutoir des forces russes, mais c'est qu'elle ne pourra pas tenir indéfiniment. Avdivka, Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
Et l'actualité à l'étranger nous ramène aussi en Afghanistan ce soir. 2 jours après un attentat contre une école chiite de Kaboul qui a fait 6 morts. 12 personnes ont été tuées, 60 blessées dans une nouvelle attaque contre la communauté chiite. Une mosquée de Mazar-e-Sharif dans le nord du pays. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Hélène.
Un attentat revendiqué cette fois par le groupe État islamique.
Une revendication sans surprise, la branche locale de l'État islamique étant la principale suspecte des multiples attentats contre la communauté chiite en Afghanistan. Le groupe terroriste sunnite fournit même quelques détails en expliquant avoir placé un colis piégé dans cette mosquée de Mazar-e-Sharif et l'avoir fait exploser à distance. La communauté chiite, régulièrement prise pour cible, représente 10 à 20% des 40 millions d'Afghans. Les Hazaras sont considérés par l'organisation État islamique comme des hérétiques. L'attaque menée avant-hier contre une école de garçons dans un quartier chiite de Kaboul et au cours de laquelle 6 personnes ont trouvé la mort n'a pour l'instant pas été revendiquée. Les talibans qui dirigent désormais l'Afghanistan d'une main de fer se targuent d'avoir vaincu la filiale de l'État islamique dans le pays et de faire régner l'ordre. En réalité, même si la sécurité s'est améliorée, les attaques se poursuivent. Aujourd'hui, une autre explosion a tué au moins 4 personnes à Kunduz, dans l'extrême nord de l'Afghanistan. Attentat également revendiqué par l'État islamique. Cette attaque visait un véhicule transportant des civils. Les autorités talibanes ont juré de punir les responsables.
Bertrand Galichet. Et puis, jusqu'où ira le parti Gate au Royaume-Uni? Les députés britanniques décident aujourd'hui d'ouvrir une enquête visant le Premier ministre Boris Johnson.
Au procès des attentats du 13 novembre, la Cour entend ces jours-ci les experts psychiatres et psychologues qui ont examiné les accusés.
Expertise obligatoire pour tout accusé jugé en France. Mais que Salah Abdeslam, le principal accusé, a longtemps refusé, jusqu'à finalement l'accepter en novembre dernier, pendant le procès donc, avec 2 médecins psychiatres, Daniel Zaguri et Bernard Balivet, entendus cet après-midi. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Et leur expertise apporte un éclairage important au débat.
Pour les psychiatres, Salah Abdeslam est l'histoire d'une oscillation. Il y a eu un débat politique hier soir, et bien Salah Abdeslam est dans le « en même temps » sourit Daniel Zaguri à la barre. D'un côté, le petit gars de Molenbeek, détaille le psychiatre, de l'autre, le Salah Abdeslam ayant voué son existence à Dieu. Pour celui-là, ce Salah Abdeslam engagé dans un système totalitaire, le privant de tout choix autonome, analyse Daniel Zaguri, celui-là ne pourra authentiquement éprouver des sentiments à l'égard des victimes que s'il sort de l'arsenal déshumanisé qui pense pour lui, lui interdit d'éprouver. Et en attendant, les victimes sont celles d'une guerre dont il a été le soldat. Mais les psychiatres qui ont examiné Salah Abdeslam pendant 2h30 au sein de la prison de Fleury-Mérogis ne limitent pas l'accusé à cela. Cet accusé, qui leur évoque la banalité du mal, selon le concept de la philosophe Hannah Arendt, ne leur semble pas figé. Il est devant un choix douloureux, difficile, mais c'est le sien. Le choix d'une réhumanisation ou d'un endurcissement. Redevenir le petit gars de Molenbeek ou rester le soldat de Dieu, un dilemme cornélien, résume encore l'expert psychiatre, qui conclut « et le danger serait de l'enfermer dans l'une ou l'autre de ses postures ».
Charlotte Piret, en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris, et compte rendu de cette audience à retrouver aussi en intégralité sur franceinter.fr. Et voici à présent un petit robot infatigable. Ingenuity est un drone qui a commencé à voler sur Mars il y a 1 an. Une prouesse et une grande première déjà. Jamais avant cela on avait réussi à faire voler un engin motorisé sur une autre planète que la Terre. Eh bien figurez-vous que l'engin vole toujours et c'est un tour de force à plus de 55 millions de kilomètres de chez nous, Sophie Becherel.
25 vols, près de 6000 mètres parcourus en 46 minutes cumulées. Même un hélicoptère télécommandé ferait mieux. Pourtant, c'est un exploit, une première historique. Pour preuve, initialement Ingenuity devait réaliser 5 brefs vols de 30 secondes et l'autonomie de sa batterie était de 30 jours. Encore fallait-il qu'il vole, car l'atmosphère de Mars est beaucoup moins dense que celle de la Terre. Il a donc fallu le doter de pales surdimensionnées pour assurer la portance et faire tourner son rotor très vite. Grâce au petit panneau solaire qui marche très bien, l'engin est donc toujours opérationnel. Une fois encore, la NASA a fait la preuve de l'intérêt d'une démonstration technique, même quand il n'y a pas de but scientifique. Procédé déjà testé avec succès dans le passé, souligne Christophe Chaffardon, le directeur sciences, culture et éducation de la Cité de l'Espace à Toulouse.
Il y a 25 ans, les Américains avaient embarqué un petit démonstrateur comme ça, qui s'appelait Sojourner, tout petit, la taille à peu près d'une grosse boîte de chaussures, pour voir s'il était capable de rouler sur la planète Mars. Bah oui, il a été capable de rouler. Et 25 ans après, ils ont été capables d'envoyer des rovers grands comme une voiture, comme Perseverance. Donc ce qu'on voit là aujourd'hui, avec cette démonstration plus que réussie d'Ingenuity, ça préfigure l'avenir.
Dans le futur, on pourrait généraliser sur les missions spatiales la présence d'un hélicoptère pour explorer les planètes. Ils sont capables de survoler de plus grandes zones et d'offrir un angle de vue différent.
Et puisqu'on en est aux grandes premières, dans un autre style, je vous l'accorde, c'est une femme, pour la première fois, qui va arbitrer la finale de la Coupe de France masculine de foot le 7 mai prochain au Stade de France. Stéphanie Frappard, qui avait été déjà la première à arbitrer un match de Ligue 1 en 2019, c'était il n'y a pas si longtemps.
Voilà, la bonne nouvelle, c'est quand ce sera plus une info. Voilà. Merci beaucoup Hélène Filly, on se retrouve demain. Nous, on reste ensemble pour le téléphone sonne. On va voir si désormais, après presque 15 jours de réflexion et un débat, vous avez fait votre choix. Vous allez nous raconter ce qui a tourné dans vos têtes et comment ça a fini par atterrir. Allez, un œil sur le ciel d'abord.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
Élodie Calac, un temps plus changeant pour demain.
Oui, alors patience sur la Corse quand même, la matinée sera encore bien pluvieuse, surtout sur l'Est. Il restera juste quelques averses en revanche l'après-midi. De l'Aquitaine au pourtour méditerranéen et en vallée du Rhône, retour de belles éclaircies, parfois encore bien timides le matin. Des Charentes et du sud de la Bretagne vers le massif central et des Alpes au Jura. Là, le ciel deviendra instable l'après-midi avec quelques averses, parfois de l'orage voire un petit peu de grêle. Et puis plus au nord, le soleil sera à nouveau au rendez-vous. Juste quelques nuages dans l'après-midi sans conséquence et un vent de nord-est près de la Manche.
Et des températures qui restent plutôt agréables.
Oui, souvent 6 à 10 degrés le matin, alors un petit peu moins vers le nord-est et près des Pyrénées, mais jusqu'à 12 en Méditerranée. Et puis l'après-midi, 14 degrés à Cherbourg, 18 à Lille, 20 degrés à Nevers, Bordeaux ou Marseille, 21 degrés à Nantes, Paris, Strasbourg et 22 pour Lyon ou Montélimar.
Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France.